Donc la parole est à Yanis Gancel, pédopsychiatre à Lyon et docteur en anthropologie.
Merci Alima. Du coup, je vais mettre un petit chronomètre pour chronométrer mon temps, parce que 15 minutes, c'est vrai que c'est court. Et puis, du coup, c'est de l'autocontrôle que je fais de moi-même. Et vous verrez qu'à la fin de mon intervention, j'essaierai de retomber sur les pieds de l'autocontrôle. Donc, repérez ce mot, car il reviendra peut-être à la fin de la communication. D'abord, je souhaitais remercier donc Alima et également Romane Petrouchine et Bertrand Ravon, qui m'ont convié à travailler sur le projet Adolescents difficiles avec leur SPER. Donc là, je souhaitais vous donner quelques éléments, alors plus spécifiquement sur la notion d'adolescent difficile, et donner un éclairage, on va dire, d'histoire sociale de cette notion. Et plus précisément, je vais revenir sur quelques points importants, quelques leçons importantes qu'on peut tirer de la période politique, culturelle et sociale à laquelle cette notion d'adolescent difficile émerge. Pour commencer, je vais vous lire donc deux citations, et vous verrez que ces deux citations, quand on les lit l'une après l'autre et quand je vous dirai de qui elles sont issues, elles vont avoir un petit goût d'anachronisme, et donc je développerai à partir de ça. Première citation donc, « Le thème des adolescents difficiles est par lui-même d'une brûlante actualité, qu'on le mesure notamment par l'abondante littérature et les confrontations qu'il suscite. Ceci a permis de dégager certains facteurs d'incompréhension mutuelle préjudiciables, entre équipe éducative et services de santé mentale, donc préjudiciable à la solution des problèmes posés par les adolescents difficiles. Reconnaissons d'abord que les équipes de santé mentale déplorent les conditions dramatiques où il est généralement fait appel aux psychiatres. » Deuxième citation. « La question de la prise en charge des mineurs en grande difficulté a fortement émergé ces dernières années, tant dans sa dimension éducative que soignante. Leur comportement, par exemple leur violence à l'égard des autres ou d'eux-mêmes, leur capacité à déstabiliser le fonctionnement institutionnel pose des problèmes aux établissements de soins comme aux structures médico-sociales et éducatives. Ces situations provoquent chez les professionnels un sentiment d'inquiétude et d'impuissance et les amènent à se tourner vers les équipes de psychiatrie pour trouver des solutions. » Fin de citation. Donc la première de ces citations est issue d'une retranscription de l'allocution de Roger Mizès, professeur de psychiatrie de l'enfant, aux assises de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine en 1977. La seconde est une note introductive des actes du séminaire Santé et Justice qui a été tenu ici même à Paris au printemps 2000 sous l'égide conjointe du ministère de la Justice et du ministère, donc à l'époque ça s'appelait de la Santé et des Solidarités. Donc quand on mesure l'intervalle d'un peu plus de 20 ans qu'il y a entre ces deux citations et la référence qu'elles font toutes les deux à une actualité, c'est là qu'on retrouve un petit goût d'anachronisme. Et la deuxième citation suggère que cette impression, cet anachronisme serait une impression, un effet que les adolescents peuvent avoir chez les professionnels, comme créer un sentiment d'inquiétude, d'urgence, d'immédiateté. Et puis, ces deux citations ont un autre point commun, c'est qu'elles placent toutes les deux la psychiatrie dans une position qui est à la fois centrale et à la fois problématique. Pour introduire un petit peu plus mon propos, et peut-être que ça servira aussi pour les interventions qui suivront aujourd'hui, je voulais revenir sur les usages actuels de cette notion d'adolescent difficile et sur ce que l'on pourrait appeler peut-être une mode pour les adolescents difficiles qui s'est déployée surtout, on va dire, au cours des 10-15 dernières années, à partir du tournant des années 90-2000. Donc à cette période, la notion d'adolescent difficile est caractérisée par son ubiquité, c'est-à-dire qu'on la trouve dans différents espaces, peut-être pas partout, elle n'est pas omniprésente, mais elle est ubiquitaire, on la trouve dans différents espaces. Et plus précisément, on peut repérer trois types de pratiques ou d'espaces sociaux dans lesquels elle est utilisée. Premièrement, les adolescents difficiles font l'objet de programmes de politique publique qui visent en particulier la concertation des interventions éducatives, judiciaires et sanitaires. Deuxièmement, les adolescents difficiles font l'objet d'une littérature qu'on pourrait dire académique, mais également professionnelle, donc plutôt apparentée au monde de l'université, mais également issue de professionnels, entre guillemets, de terrain. Littérature francophone, donc française, mais pas exclusivement française. On trouve également des auteurs belges et suisses qui travaillent sur cette notion. Et troisième point, les adolescents difficiles font, donc au cours des années 2000, l'objet d'actions institutionnelles spécifiques. Alors en premier lieu, j'aurais envie de mettre les réseaux interprofessionnels pour adolescents difficiles, qui se développent à cette période dans nombre de métropoles en France. On pourrait également citer des établissements spécifiques dédiés aux adolescents difficiles qui souvent ont la particularité d'être sous tutelle multiple, tutelle sanitaire, judiciaire et de protection de l'enfance. Et puis on pourrait également ranger dans ces actions institutionnelles spécifiques des actions académiques comme les diplômes universitaires adolescents difficiles, donc créés ici à Paris par Philippe Jamet et puis développés dans d'autres villes, notamment à Lyon par Nicolas Georgieff. Et ces actions institutionnelles ont en commun de transversaliser les pratiques, pour reprendre l'expression de Bertrand Ravon et Christian Laval. Enfin, il me semble important de souligner, avant de revenir sur le cœur de mon propos, d'arriver sur le cœur de mon propos, que cette notion n'est pas juste une notion, mais que les adolescents difficiles constituent à cette période une catégorie, c'est-à-dire qu'elle a une délimitation et un contenu assez précis qui s'organise autour de quatre points. Donc malgré cette ubiquité, malgré le fait qu'un peu partout, entre guillemets, on parle d'adolescents difficiles, on se réfère quand même toujours un peu à la même chose. Premier point qui définit et délimite les adolescents difficiles, des conduites transgressives et violentes, essentiellement la violence envers soi-même et autrui, comme on l'entend dans la deuxième citation, mais également les fugues et, pendant des fugues, la sexualité à risque ou intempérée. Deuxième point, l'absence de troubles psychiatriques classiques ou plus précisément de troubles psychiatriques reconnus. Troisième point, et ce point-là me semble particulièrement important et donc je reviendrai dessus, les adolescents difficiles se définissent, et peut-être on retrouve des éléments qui ont été amenés par Anima Zeroug et Nicolas Georgieff en introduction, les adolescents difficiles se définissent par des réactions particulières de leur entourage. Donc on ne définit pas les adolescents difficiles que par eux-mêmes, mais par les effets qu'ils ont sur leur entourage. Provoquer un sentiment d'inquiétude, susciter un hyper-investissement suivi de rejet, et de manière implicite, les adolescents difficiles ont également la caractéristique de se faire rejeter de partout. C'est-à-dire que, de manière implicite, ces adolescents difficiles sont définis comme étant à la marge et dans les interstices des institutions. Et quatrième point, les adolescents difficiles se définissent par une étiologie, on pourrait dire en termes cliniques, c'est-à-dire une cause, la carence affective vécue dans l'histoire familiale précoce. Ces quatre points font donc que les adolescents difficiles constituent une catégorie organisée par le savoir clinique et par le savoir psychopathologique et organisée comme un savoir clinique avec donc des symptômes et une cause. Pour étayer aussi et préciser qu'il s'agit d'une catégorie, je tiens à souligner qu'il peut y avoir des appellations différentes pour le même contenu. On peut parler d'adolescents difficiles, d'adolescents en grande difficulté, de mineurs en grande difficulté ou de mineurs difficiles, comme dans la deuxième citation, petite nuance sur laquelle on pourra discuter. Parfois, on parle aussi d'adolescents limites, mais ces différentes appellations renvoient au même contenu. Maintenant, mon intervention portera essentiellement sur deux points relatifs à la période où émerge donc cette notion d'adolescent difficile. Et je vais vous les citer maintenant pour que vous puissiez repérer mon propos. Premier point, l'émergence des adolescents difficiles indique une tension morale dans l'usage de la contrainte. Deuxième point, l'émergence des adolescents difficiles permet d'établir une symétrie de vulnérabilité entre professionnels et adolescents. Donc premier point, une tension morale dans l'usage de la contrainte. Donc la catégorie des adolescents difficiles naît au milieu des années 1960. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'est pas découverte dans les années 1990 et Jean-Pierre Chartier, par exemple, qui est un auteur emblématique des adolescents difficiles, est plutôt dans une position d'exhumer cette catégorie après une dizaine d'années où elle était dans un oubli relatif. L'expression donc adolescent difficile apparaît au milieu des années 1960 et plus précisément, on parle alors, quand elle apparaît au féminin, c'est-à-dire qu'on parle d'adolescente difficile. Les premiers auteurs à découvrir cette population sont des psychiatres de formation psychanalytique qui ont la particularité de travailler en dehors, aux marges de l'asile, dans des institutions de protection de l'enfance ou dans des institutions de justice des mineurs. Dans ces institutions où sont découverts les adolescents difficiles, il y a à ce moment-là deux points qui sont importants à souligner. Ce sont des institutions qui sont encore faiblement professionnalisées pour certaines d'entre elles et qui sont encore assez fortement sous tutelle cléricale. On peut également souligner que ces institutions sont encore ségrégées sur le plan sexuel. Donc dans les années 1960, et ça se poursuivra encore pendant un certain temps après, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, les institutions sont, donc, qui s'occupent de déviance juvénile sont essentiellement ségrégées, alors qu'on peut rappeler quand même que dans l'éducation nationale, la coéducation est un programme politique qui date du début du XXe siècle et qui est effectif au lycée depuis déjà une vingtaine d'années, depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans ces institutions, les conduites et la violence des adolescents et des adolescentes font l'objet d'un savoir, mais qui est un savoir globalement déconnecté de l'expertise clinique, plutôt référencé à la pédagogie, éventuellement à des notions religieuses, et qui pour autant considère les déviances et la violence en particulier des adolescents comme relevant d'anomalies et pouvant faire l'objet de traitements particuliers Et donc, ces institutions développent des techniques visant en fait à la gestion des crises et à la discipline au sein des institutions, qui sont des techniques qui portent essentiellement, qui ont comme support le corps. Fatigué par le travail, séparer les groupes de jeunes filles, faire du sport en plein air, faire des douches froides, etc. Et donc, c'est dans ces pratiques, on va dire, disciplinaires qui portent sur le corps, c'est au sujet de ces pratiques disciplinaires qui portent sur le corps, que se développe, que les adolescents difficiles trouvent, on va dire, leur tropisme, c'est-à-dire un terreau sur lequel pousser. Et plus précisément, c'est en problématisant ces techniques qu'émergent les adolescents difficiles. En effet, parmi ces techniques, l'une d'elles pose particulièrement question aux auteurs qui s'intéressent aux adolescents difficiles, c'est l'isolement. Donc l'isolement, ça consiste à enfermer dans une cellule au sein de l'établissement éducatif des jeunes filles pour traiter leur crise, en particulier les jeunes filles qui sont enclines à être très violentes ou bien à fuguer. Et donc à ce moment-là, ces techniques, comme l'uniforme, sont des techniques qui sont décriées pour leur caractère dépersonnalisant, pour leur côté bien sûr dur et pénible, et également pour la rémanence qu'elles ont des pratiques carcérales qui sont déjà dénoncées au sujet des enfants depuis plusieurs dizaines d'années. Mais par ailleurs, ces techniques, l'isolement comme le port de l'uniforme, sont légitimées pour leur vertu disciplinaire, incarner l'autorité des adultes, prévenir les fuites des adolescentes, mais également, et c'est là qu'apparaît quelque chose d'un peu particulier à mon sens au sujet des adolescentes difficiles, comme des mesures de protection. En enfermant l'adolescente, on la protège contre elle-même et on la protège d'être victime d'exclusion, victime d'un rejet. Et donc, avec l'apparition des adolescentes difficiles, la contrainte ne revêt plus uniquement un rôle disciplinaire, mais revêt également un rôle de protection et une vertu thérapeutique. Je ne détaille pas ça, mais cette technique d'enfermement commence à revêtir donc une vertu thérapeutique autour de l'apaisement de la crise. Deuxième point donc, sur lequel je vais donner quelques éléments, les adolescents difficiles créent une symétrie de vulnérabilité entre professionnels et adolescents. Donc, ces auteurs essentiellement psychiatres de formation analytique qui étudient les pratiques pédagogiques auprès de jeunes délinquants ou de jeunes à protéger créent une catégorie, celle des adolescents difficiles, et cette catégorie prend la suite d'une catégorie antérieure qui est celle d'adolescents inadaptés. Très rapidement, la notion d'adolescent inadapté est issue du Conseil technique de l'enfance déficiente et en danger moral, qui avait été mis en place par le régime de Vichy en 1943, et qui représente une tentative rapidement avortée de placer sous tutelle médicale toutes les déviances juvéniles. Et cette notion d'adolescence inadaptée était beaucoup plus univoque que celle d'adolescence difficile, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'adolescence qui était inadaptée à son milieu. Et pour reprendre justement les conceptualisations plus modernes de l'adolescence que citait Nicolas Georgiev, c'est-à-dire que le milieu fait partie de l'adolescence, donc ça, c'est des notions qui sont assez étrangères à celle d'adolescence inadaptée. Avec les adolescents difficiles, il y a une inflexion qui se situe de ce côté-là, où les adultes sont inclus dans la définition des adolescents et dans la définition des problèmes des adolescents. Très rapidement, un petit détail, mais on pourra revenir dessus, je trouve que c'est intéressant, c'est aussi à cette période, donc dans les années qui suivent, dans les années 1970, que la catégorie devient mixte. Donc on parle aussi bien d'adolescentes difficiles que d'adolescents difficiles. Cette mixité, deux petits détails à son sujet, elle se fait silencieusement, c'est-à-dire qu'on ne dit pas pourquoi tout d'un coup on se met à parler de garçons. Et par ailleurs, autant les institutions étaient ségrégées et on pouvait comprendre qu'on ne parlait que de filles du fait que les établissements observés étaient ceux qui accueillaient des filles, autant à cette période, la ségrégation n'est pas complètement levée dans les établissements. Donc il y a une disjonction quand même entre le passage à la mixité des conceptions et le passage à la mixité des institutions. Donc à cette période, la promotion de l'adolescence difficile repose sur l'expérience de cliniciens qui se réfèrent à leur propre vulnérabilité et pour certains d'entre eux même à l'enfermement concentrationnaire nazi. Et se référer à la vulnérabilité des professionnels permet de déployer deux choses. D'une part, militer pour l'éducation en foyer ouvert, c'est-à-dire participer à un mouvement de dénonciation des aspects disciplinaires et totaux, on pourrait dire, dans la critique contemporaine qui est faite alors des institutions. Et donc, dans cette dénonciation d'une éducation qui serait trop disciplinaire, on souligne l'importance d'associer techniques pédagogiques et techniques curatives. Donc, il ne s'agit pas de trouver chacun son camp, entre guillemets, et sa juridiction, mais de mettre ensemble les pratiques au sein d'une pédagogie curative. Et donc le deuxième point, c'est que pour s'occuper que les adolescents, la vulnérabilité est vraiment symétrique entre adolescents et professionnels, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'adolescents qui, du fait de leur conduite et à travers des notions comme celle du transfert, peuvent entre guillemets blesser les professionnels, c'est-à-dire souligner et créer une vulnérabilité chez les professionnels ou créer une vulnérabilité chez les professionnels. Il s'agit également, voilà, d'adolescents qui, dont pour pouvoir s'occuper, il faut être soi-même vulnérable. Et à cette époque, les promoteurs des adolescents difficiles développent une nouvelle technique disciplinaire comme celle de faire la gueule. Donc dans un foyer, quand un adolescent fait quelque chose de très grave, au lieu de l'enfermer ou de lui faire une douche froide, on lui fait la gueule. Les professionnels qui développent ce genre de technique soulignent combien, d'une part, elles associent donc aspect pédagogique et aspect thérapeutique, c'est-à-dire qu'il s'agit pas simplement de discipliner un adolescent, mais également de l'aider à se transformer. Et il souligne également combien cette technique ne peut avoir un effet que si elle est conditionnée par un lien de sollicitude. C'est-à-dire, un adolescent va être sensible au fait qu'un adulte lui fait la gueule, que si l'adulte s'est vraiment préoccupé de lui. Et donc, finalement, on voit apparaître ici des nouvelles formes, on va dire, d'autocontrôle, pour reprendre l'image de mon téléphone qui sonne, ou en tout cas, d'une manière peut-être plus générale, des nouvelles formes d'organisation de la discipline dans les institutions, qui ne passent plus par le corps, mais qui passent par les émotions et les affects, et qui passe également par la personnalisation, c'est-à-dire le fait de rentrer dans une relation très personnelle avec l'adolescent. Et donc, pour conclure, depuis son émergence au milieu des années 1960, la catégorie d'adolescents difficiles s'est stabilisée, c'est ce qu'on voit encore dans les pratiques des années 2000, autour de trois notions. Le repérage d'une population marginale des institutions, la nécessité de lier les interventions pédagogiques, judiciaires et sanitaires, et enfin, l'usage problématique de la contrainte qui est sans cesse mis en balance entre la dangerosité de l'adolescent et les risques qu'il encourt pour lui-même. Et donc, les adolescents difficiles trouvent en quelque sorte une niche écologique, pour utiliser ce terme-là, dans une polarité entre dangerosité et vulnérabilité, entre autonomie et protection. Je vous remercie pour votre attention.